Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons entendu cet évangile ainsi que cette lecture de saint Paul qui écrit aux Galates et le sujet de ce dimanche est porté sur la foi. Nous avons entendu que saint Paul parlait de la foi comme étant quelque chose qui évolue et qui nous fait devenir d'enfants que nous sommes par le baptême, enfants de Dieu, c'est-à-dire nés à nouveau dans l'Esprit, où on devient le Christ en puissance, mais l'accomplissement et la réalisation de la présence du Christ en nous, notre communion avec le Christ, ne se réalise que par le chemin de l'abandon entre les mains du Seigneur, par la foi que nous avons en Dieu, qui nous permet de faire la place pour le Christ en nous. C'est comme le dit la parole de saint Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. C'est ça notre chemin, justement, saint Jean-Baptiste, qui, ce n'est pas un hasard, était le baptiseur, celui qui nous a baptisés, qui a baptisé même le Christ. Eh bien, nous avons cette parole qui nous montre comment réaliser notre chemin de communion avec le Seigneur, que c'est par la foi. Maintenant, la question, elle est, comment acquérir la foi? Parce que il est vrai que nous venons à l'Église, nous avons la foi. La première étape, quand nous devenons chrétiens, c'est d'avoir la foi dans l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que nous adhérons à ce que l'Église nous enseigne dans ce que sont les principes de base de la vie du salut. Il y a les dogmes, comme par exemple la Sainte Trinité. Il y a l'autre dogme qui est les deux natures du Christ. Et tous ces dogmes, toute cette foi que nous enseigne l'Église est principale, est la base, si je peux dire, pour comprendre comment réaliser notre salut. Je pense que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. On aura encore l'occasion d'en reparler lors des catéchèses. Pourquoi? J'ai d'ailleurs fait des catéchèses depuis un an ou deux sur qu'est-ce que c'est que l'économie du salut, où j'explique l'importance de la compréhension de la Sainte Trinité, l'importance de comprendre que dans le Christ, il y a les deux natures qui sont présentes et que tout cela nous mène au salut comme quelque part une carte nous mène à la destination à laquelle on veut arriver. Si nous ne connaissons pas l'endroit, si nous ne connaissons pas comment arriver à un certain endroit, il est indispensable d'avoir un chemin, une carte qui nous montre le chemin pour y arriver. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui est de l'enseignement de l'Église, c'est cela, la foi. Mais il y a une autre foi. Il y a la foi complémentaire à cette première foi, qui est l'expérience de Dieu, le vécu de Dieu, sentir comme Dieu intervient dans notre vie et change la perception du monde, que notre vie n'est plus sous la loi, si je peux dire, terrestre de la gravité, mais plutôt sous une loi métaphysique qui nous amène dans la dimension divine. Et c'est de cela que parle saint Paul, de ce passage de la loi à la foi jusqu'à la réalisation de l'union avec Dieu, avec le Christ. Alors, comment réaliser cette foi? L'Évangile nous l'explique. Il explique comment les deux aveugles, qui probablement n'avaient qu'entendu parler du Christ, ne l'avaient évidemment jamais vu, mais ils savent que probablement ils ne peuvent compter que sur ce Christ qu'ils ont entendu. Ils ont déjà essayé les médecins, ils ont certainement déjà essayé de voir les pharisiens, mais rien ne leur a donné la vue. Donc, ils tentent quelque part le tout pour le tout, un petit peu comme dans des circonstances où on dirait « ça passe ou ça casse ». Eh bien là, il disait, nous, on n'a plus rien à perdre, même si on n'a pas vraiment la foi, eh bien, on va forcer cela, et on va tenter, on va risquer, on va prendre le courage de répondre au Christ, oui, nous avons la foi. Et puis, effectivement, c'est par ce courage, de cet abandon, qu'il y a ce miracle qui se passe et qu'il retrouve la vue. On a la même chose avec le muet. Le Christ montre comme il peut guérir, et c'est par cela que nous pouvons tout doucement chasser les démons, et c'est par cela que nous pouvons tout doucement comprendre que quand nous sommes opprimés, c'est-à-dire opprimés à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous avons, si on peut dire, l'incapacité de communiquer, un petit peu comme ce muet n'avait pas la possibilité de communiquer, quand on sent le mal-être intérieur, qu'on ne voit pas les choses comme les aveugles ne voyaient pas les choses, eh bien, c'est à ce moment-là où il faut un petit peu faire le pari de Pascal. Je n'ai rien à perdre. Je sais que pour certains chrétiens, ça peut paraître un petit peu déplacé d'avoir ce pari de Pascal, mais Pascal, quand il dit ça, il dit cela à ceux qui ne croient pas. Il dit, de toute façon, vous pouvez rester avec votre logique que Dieu n'existe pas, que tout ça c'est baliverne, que cela c'est l'opium du peuple, mais au final, qu'est-ce que vous avez à perdre d'avoir la foi? Et si on ne fait pas ce pari un moment dans notre vie, si on ne risque pas un petit peu notre confort, si on ne risque pas un petit peu notre sécurité, eh bien, on n'arrivera jamais à vraiment connaître la providence divine. On n'arrivera jamais à voir comme Dieu intervient dans notre vie. Donc, il faut abandonner nos sécurités. Il faut faire ce pari pour que la foi arrive. Et une fois que nous vivons dans cette relation avec Dieu, qu'on voit qu'au fait, Dieu gère notre vie beaucoup mieux que nous sommes capables de gérer notre vie avec toute l'intelligence qu'on peut avoir, eh bien là, commence une relation de dialogue, d'amitié avec le Seigneur. Et c'est là que tout doucement, on commence à vivre comme le Christ. Et on voit très bien, comme le dit saint Paul, qu'on évolue dans une vie chrétienne qui est au début une vie plutôt morale, une vie plutôt axée sur la loi, de on peut faire, on ne peut pas faire, et puis tout doucement avec la foi on commence à connaître le Seigneur et on commence à vivre dans cette autre dimension que le monde ne comprend pas, parce que justement c'est quelque chose qui n'est pas explicable par la logique, mais qui ne peut que se vivre. Et c'est là où on voit que les pharisiens aussi, autant qu'ils voulaient connaître Dieu, autant qu'ils ont étudié les Écritures, autant qu'ils ont pu faire pour connaître Dieu, pour être des bons religieux, eh bien, ils n'ont jamais pu s'élever plus loin que la loi. Ils sont restés toujours dans l'ignorance de Dieu, dans l'incompréhension du Christ. Et c'est pour ça qu'ils réagissent ainsi. Ils ne comprennent pas comment le Christ, qui est un pauvre enfant de menuisier qui n'a jamais étudié, comment lui, il peut guérir les multitudes, il peut enlever les infirmités, que les gens sont de nouveau en bonne santé, pas seulement physique, mais psychologique. Et alors, ils sont mécontents, si je peux dire, ils sont en colère intérieure, et alors ils expriment leur colère en disant que c'est pas possible que quelqu'un qui vient du peuple comme ça puisse faire des choses pareilles, des miracles comme ceux qu'il voit. Alors il se retourne même contre la Providence, même contre le Saint-Esprit, et ils font ce qu'on appelle le péché de la calomnie du Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonné parce qu'ils refusent de voir la vérité et ils préfèrent rester dans le mensonge. Et c'est pour ça qu'ils l'accusent, qu'ils guérissent les gens, non pas avec Dieu, mais avec l'esprit mauvais de Belzéboul, l'esprit de Baal, qui est le dieu des démons. Et donc, c'est intéressant et important de connaître, de comprendre que ce qui se passe ici, c'est notre progrès, effectivement, dans la foi, et on voit comme le Christ, il a comme exemple à nous donner ce courage, que malgré que les gens le critiquent, malgré que les gens essayent de l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, eh bien, il fait ce qu'il doit faire. Et il continue, il parcourt, il guérit, il va dans les synagogues, il enseigne. Cela aussi est notre rappel en tant que chrétien. Il faut comprendre, le christianisme n'est pas une religion du formalisme, n'est pas une, si je peux dire, une spiritualité comme on pourrait rencontrer dans le yoga, de postures magiques, ou comme on pourrait rencontrer dans l'islam, d'une moralité qui nous guérit. Non, ce que demande le christianisme, c'est le courage, c'est la force d'abandonner nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens sont des soldats. Eh bien, le vrai soldat est quelqu'un qui arrive à dépasser les limites. Et dans la providence de Dieu, on voit même dans les guerres qui se sont passées que souvent, ce sont les courageux qui passaient à travers mille péril, eh bien, il restait en vie, alors que peut-être justement le lâche qui était retranché et qui ne voulait surtout pas se faire tuer, eh bien, c'est lui qui, par une balle perdue, à la rigueur, se faisait tuer. Et donc, c'est important de comprendre cette chose. Nous, en tant que chrétiens, on doit être des chrétiens, si je peux utiliser ce mot que je n'aime pas, mais qui en même temps est assez expressif, on doit être du challenge, on doit pouvoir être des bataillants, des courageux, et de défier quelque part Dieu et dire, voilà, je ne peux pas, mais tu peux, et tu feras quelque part, je t'oblige à faire de moi un chrétien. Et je voudrais seulement terminer cette petite homélie par une parole qui est énigmatique chez le Christ. C'est que le Christ, il dit à ceux qu'il guérit, il dit souvent « ne le dites à personne ». C'est étrange parce qu'on pourrait dire mais c'est un peu contradictoire avec le reste ou les autres endroits de l'Évangile où, par exemple, il dit qu'il ne faut pas mettre la lumière sous la table mais qu'il faut qu'elle rayonne au grand jour. Eh bien, ça paraît contradictoire quand le Christ dit « ne le dites à personne ». Et pourtant, c'est encore là ce qu'il dit. Évidemment, il dit « oui ». Ne le dites à personne, mais il sait très bien que les gens vont le dire et il ne dit pas que c'est mal de le dire parce que justement, il ne se cache pas du fait que ce qu'il fait ne plaît pas à l'establishment, mais il le dit surtout par preuve d'humilité. Il ne veut pas qu'on fasse la publicité de lui-même. Il veut que les choses se passent dans la discrétion. Et il veut aussi toujours que les choses se passent dans la providence. On sait que les grandes entreprises, comment elles fonctionnent? Eh bien, elles fonctionnent en faisant de la publicité pour vendre leurs produits. Mais les bonnes petites entreprises, elles n'ont pas besoin de publicité parce que les gens vont chez eux. Parce qu'ils font du bon travail et le bouche à oreille et la providence de Dieu est souvent beaucoup plus efficace que la publicité. La publicité amène les gens qui sont un petit peu sans réfléchir, les autres vont chercher ce qui est bon. Et c'est ça que le Christ veut montrer par cette parole, dire un trésor ne se révèle pas au grand jour, un trésor se cache et ce sont les gens qui veulent le trouver, qui vont le chercher et qui vont effectivement le trouver. Donc voilà ces paroles pour montrer que le christianisme n'est peut-être pas une chose facile, peut-être même pas une chose accessible à tout le monde, mais tout de même que cela vaut la peine de vivre un christianisme total et de s'abandonner entre les mains du Seigneur parce que c'est à ce moment-là que nous recevrons l'héritage du royaume des cieux. Comme le Christ l'a dit, nous devenons des enfants qui sont héritiers en potentialité pour devenir des véritables héritiers des biens du Seigneur. Amen.